Alors, tournez avec nous dans Éphésiens au chapitre 2, s'il vous plaît. On est dans notre deuxième exposé de cette série. Et contre-culture. Qu'est-ce que l'Église est appelée à revisiter dans sa propre culture, c'est-à-dire l'Église de l'espoir, pour être transformée un petit peu plus par l'Évangile de Jésus-Christ et apporter une saveur différente au monde qui est autour de nous? Le monde dans lequel on vit, les sociétés qui composent le monde, notre société à nous, sont des sociétés où on trouve souvent la division, la ségrégation. Je ne sais pas si vous connaissez le peintre Norman Rockwell. Si vous ne le connaissez pas, c'est un de mes préférés. Très, très, très accessible comme art. Si on peut avoir la toile avec la petite fille qui se dirige pour aller à l'école, on est supposé d'avoir ça. Sous peu. Ou pas. Non? OK. Un petit problème technique. Pas de problème. Norman Rockwell a illustré beaucoup de divisions, de ségrégation. Il a peint beaucoup dans les années 60, d'accord? Et une des choses qu'il a pu peindre, ses toiles étaient publiées en couverture de magazines. Et donc, souvent, il a adressé des difficultés dans la société américaine. Et cette toile-là à laquelle je fais référence, on voit une petite fille. Merci, génial. On voit une petite fille, ça s'est passé en 1964. C'est une petite fille de 6 ans, donc c'est basé sur une histoire vraie. Elle a été la première petite fille noire à se rendre dans une école entièrement composée de blancs. Ce que vous voyez ici, elle est accompagnée de 4 bodyguards, des gardiens qui la protègent pour se rendre là-bas. Et vous pouvez lire des descriptions de journalistes qui étaient présents cette journée-là. La foule était là pour crier et mettre une pression incroyable sur une petite fille de 6 ans, d'accord? Et avec courage, elle s'est rendue à l'école, puis c'était dans le sud des États-Unis. C'était la première fois que ça se passait dans le sud des États-Unis en 1964. La ségrégation, la division, les classes sociales, c'est une réalité dans nos sociétés. On a été témoin de ça au Québec de manière cruelle et violente il y a quelques semaines, alors qu'il y a eu cette attaque sur le centre islamique à Québec. C'est vraiment une situation extrême. On n'est pas habitué de voir des choses aussi brutales que ça au Québec. Mais en même temps, c'est la réalité quand même. C'est la réalité autour de nous dans le quartier ici, alors qu'il y a des secteurs qui sont des secteurs de pauvres, puis il y a des secteurs qui sont des secteurs de riches, et ces deux mondes-là ne se côtoient pas. Lorsqu'on sort à la banque alimentaire, c'est évident parce que des fois, tu vas voir quelqu'un qui décide de venir faire du bénévolat, puis c'est sympathique, c'est charmant, c'est touchant, mais tu vois vraiment quelqu'un qui vient pas de ce milieu-là, puis il décide qu'il s'en vient faire du bénévolat. Ils viennent d'ailleurs, puis ils côtoient pas ce monde-là jamais. Donc, ils sont ailleurs, ils sortent de leur zone de confort. Mais vous le voyez probablement autour de vous au travail, ou si vous êtes dans une grosse boîte, peut-être que les patrons se tiennent avec les patrons, se tiennent pas avec les employés. Si vous êtes à l'école, il y a des gangs peut-être à l'école. Des fois, ça va être par des divisions qui vont être par la langue d'origine. Les hispanos vont se tenir ensemble, les blacks vont se tenir ensemble, les blancs vont se tenir ensemble. Ça se vit régulièrement dans les écoles. D'autres écoles, c'est pas le cas. Il y a vraiment une belle mixité, puis ça se mélange aussi. Mais ça fait partie de nos vies. Ça fait même souvent partie de notre foyer où il y a des divisions, puis un manque d'unité, puis il n'y a pas cette harmonie-là. Ça va se traduire souvent, la division, par un manque d'accueil véritable, sincère, un manque d'intégration. Et puis, des fois, c'est très poli dans notre société. Je pense que souvent, c'est poli, mais on reste quand même séparés. Des fois, c'est générationnel. Vous allez voir que les jeunes vivent juste dans un univers de jeunes, ne se mélangent pas avec les autres générations. Qu'est-ce que l'Église a à faire? Est-ce que l'Église peut jouer un rôle? Est-ce que l'Église peut apporter une saveur différente à la société en illustrant de l'accueil et de l'unité? Bien, je pense que l'Église ici, déjà par sa composition, démontre déjà une belle différence. Vous ne trouverez pas beaucoup d'endroits dans la société où il va y avoir cette diversité d'âge, de couleur, d'ethnie, d'origine, même de langue maternelle. C'est loin d'être tout le monde ici qui a pour langue originale, langue maternelle, le français, d'accord? Et donc, on trouve ça dans l'Église ici. L'Église peut apporter une saveur nouvelle à la société en étant l'Église. simplement en étant cet endroit où des gens de toutes les nations de la terre peuvent se réunir ensemble. Et l'Église peut apporter une saveur différente en faisant cela. Et on peut vivre l'unité puis l'accueil réel envers les gens qui arrivent dans la communauté puis qui se cherchent une Église, puis qui se joignent à notre assemblée, puis on les accueille, mais sincèrement, réellement, puis ils sont là. Et donc, d'une certaine manière, si l'Église vit bien l'Église, cet accueil des gens de toutes les nations de la terre, de toute génération, bien, l'Église va pouvoir apporter une saveur nouvelle au monde lorsque les gens de l'extérieur entrent en contact avec l'Église, avec l'Assemblée, pas simplement avec moi comme individu, mais avec l'Assemblée, à travers les petits groupes de quartier, lorsqu'ils viennent nous visiter, lorsqu'on est en train de servir ensemble, lorsque j'invite des gens chez moi, puis j'ai invité des amis chrétiens avec des amis non-chrétiens, puis ils découvrent que c'est quoi votre point, c'est quoi votre point commun, qu'est-ce qui vous rassemble? Et l'Église, comme ça, peut venir faire la différence. Ce matin, on aborde un sujet qui peut vous sembler jusqu'ici pas vraiment nous challenger, nous, comme Église. Mais je crois que le Seigneur a un message pour notre assemblée. Et si on est une église qui est vraiment multigénérationnelle, multiethnique, donc déjà un bon bout de chemin de fait, je pense que le Seigneur a un message beaucoup plus profond que ça qu'il veut nous amener et où peut-être il va nous challenger encore plus. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour la possibilité de discuter d'un tel sujet en église. Nous avons besoin de grandir comme Église, Seigneur, et la société a besoin de voir l'unité qu'on trouve dans ton Église. Seigneur, on veut te remercier et t'adorer parce que tu as eu à cœur de créer l'Église. Tu l'as fait par la puissance de ton Évangile. Tu as eu à cœur, à travers l'Église, de réconcilier les hommes ensemble. Tu as eu à cœur, Seigneur, l'unité au milieu des hommes. Seigneur, je veux te demander ce matin de parler à nos cœurs et de venir nous montrer toute la beauté de Seigneur, de cette unité que tu veux créer à l'intérieur de l'Église et de venir parler à nos cœurs pour nous montrer là où peut-être nous avons à nous repentir, là où nous avons négligé de colmater des brèches, de rétablir l'unité, Seigneur, là où nous avons toléré des conflits. Peut-être que tu veux nous parler aussi, Seigneur, de la différence qu'on peut faire dans la communauté à l'extérieur en étant celui qui initie une réconciliation entre les gens, Seigneur. Viens nous parler ce matin par ta parole. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. On va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu.
Le passage biblique de ce matin est tiré de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 11 à 18, dans l'édition Second 21. L'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 11 à 18, dans l'édition Second 21. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qu'ils sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix. Lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi et ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier, l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit.
Merci, Jérémy. La semaine dernière, on a commencé la série en disant « L'Église n'existe pas pour l'Église, mais elle existe pour la gloire de Dieu dans le monde. » Un jour, l'Église ne sera plus dans le monde. Un jour, l'Église va être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Mais pour l'instant, l'Église existe sur la terre pour la gloire de Dieu dans le monde. Et donc, on est là pour apporter une saveur différente au monde. L'Église, ça va avoir l'air d'une évidence que je vais dire, mais suivez-moi un peu, réfléchissez avec moi. L'Église est une œuvre de grâce de la part de Dieu. L'Église telle qu'on la conçoit, c'est une œuvre de grâce de la part de Dieu. Elle n'existe que par la grâce de Dieu. Lorsqu'on pense à la grâce de Dieu, généralement, on va penser à notre salut, hein? On va penser au fait que Christ est mort sur la croix pour mes péchés, puis je suis sauvé par grâce. Mais lorsque Christ a accompli son œuvre à la croix, puis sa grâce s'est déployée sur les hommes, les fruits de la grâce sont multiples, ils sont énormes. Et un des plus beaux fruits de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, c'est l'Église. L'Église, c'est un rassemblement de gens complètement disparates. On n'est pas rassemblés autour d'une passion pour le football ou pour le Scrabble ou je ne sais pas quoi, vous comprenez? On n'a pas de point commun, de passion commune. Sûrement qu'il y en a au nombre qu'on est, on pourrait trouver quelques adeptes de nos hobbies préférés, mais ce n'est pas ça qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble, c'est la grâce de Jésus-Christ. Et non seulement la grâce de Jésus-Christ nous rassemble, mais la grâce de Jésus-Christ nous instruit dans nos relations les uns avec les autres, nous réconcilie lorsqu'il y a des conflits entre nous, nous amène à croire dans cette unité, cette œuvre puissante de l'Évangile. Et notre expérience de l'Église n'est peut-être pas celle-là. Votre expérience de l'Église, c'est peut-être l'unité Yannick. J'ai déjà cru à ça dans l'Église. Et peut-être que Dieu va adresser des choses dans vos cœurs parce que vous dites, l'unité entre chrétiens, entre deux chrétiens, non, je suis désolé, j'ai essayé, j'ai déjà donné pour ça. Mais voyez-vous, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. C'est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix qui est au cœur de cette question-là. Négliger pour l'Église, négliger cette poursuite de l'unité, c'est mépriser la grâce de Christ. J'exagère pas. Négliger d'aller vers mon frère, vers ma sœur pour résoudre des conflits, c'est mépriser la grâce de Christ. Parce qu'une des plus belles manifestations de l'Évangile, j'oserais dire la plus belle manifestation de l'Évangile actuellement sur la terre, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et pas dans l'idée de l'Église universelle, mais dans l'idée de chacune des églises locales que Christ implante et que Christ bâtit. Et donc Dieu a des choses à nous dire ce matin. Le mot « Église », ça veut dire « assemblée ». C'est le rassemblement des graciés de Dieu. Et Paul nous dit dans la lettre aux Éphésiens que ce rassemblement-là, c'est un corps nouveau. C'est le corps de Christ. Dans le psaume 86,9, on voit une vision. Psaume, Ancien Testament, on voit une vision de l'Église. D'accord? Psaume 86,9, il y a plein de psaumes qui font allusion à ça. On le trouve aussi dans les livres prophétiques, mais il est vraiment très bien exprimé dans Psaume 86, verset 9. Écoutez bien ceci. « toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendront gloire à ton nom. » Dans cette vision-là, on voit des gens de tous les peuples, de toutes les nations de la terre, qui sont rassemblés ensemble, qui sont unifiés, qui sont réunis ensemble, malgré toute leur diversité, ils sont unis ensemble pour célébrer la gloire de Dieu. Plus de conflits, plus de divisions. Ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on voit dans le monde actuellement. Les hommes, l'humanité est profondément divisée. Maintenant, dans la vision de Dieu, lorsque Dieu conçoit l'Église, parce que ça ne s'est pas réalisé avec Israël dans l'Ancien Testament, dans la vision de Dieu, lorsque Dieu conçoit l'Église, voici ce qu'il voit. « Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendront gloire à ton nom. » Pourtant, les hommes sont très divisés. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la tour de Babel? La majorité d'entre vous, vous connaissez l'histoire de Babel. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est dans l'Ancien Testament, dans Genèse 11, qu'on trouve ça assez tôt dans l'histoire de l'humanité. C'était à une époque où les hommes étaient unis. Les hommes étaient vraiment unis ensemble. Il n'y avait pas ces divisions-là qu'on voit partout sur la terre. Seulement, les Écritures nous apprennent qu'à cette époque-là, les hommes étaient unis pour faire le mal. Ils étaient unis dans un projet mégalomane de fou. Ils se sont dit, si on construisait une tour tellement grande qu'on pourrait atteindre les cieux, nous serions alors des dieux. Et donc, rien ne pourrait nous arrêter. On affirmerait notre domination parfaitement. Et Dieu, voyant cette malsaine unité parmi les hommes, est venu créer la diversité de manière instantanée. Les Saintes Écritures nous disent que Dieu est intervenu à ce moment-là et leur a donné une langue différente à chacun. Et à partir de ce moment-là, les hommes ont été divisés parce que Dieu n'allait pas permettre à l'humanité d'être unie pour faire le mal. Ça peut vous sembler étrange, mais dans mon expérience à moi, chaque individu, chaque être humain est capable de faire beaucoup de mal. Et c'est une bonne chose qu'on ne soit pas tous réunis ensemble pour faire le mal. Et donc, Dieu avait décidé que ça ne se passerait pas comme ça, puis il les a divisés. Et on voit à ce moment-là apparaître les peuples, parce que les gens vont se séparer, et de là, ils vont bâtir un foyer, une famille, une nation qui va développer ses propres cultures, ses propres codes moraux, ses propres codes éthiques, leurs propres valeurs, leurs goûts différents. Et même, dans la majorité des cas, leur propre divinité. Et depuis ce temps, l'humanité est divisée. C'est vraiment fascinant de voir la beauté de la grâce de Dieu lorsqu'on voit comment Dieu vient intégrer dans son projet comme les conséquences des péchés des hommes. Alors, des siècles et des siècles plus tard, Jésus-Christ vient. Jésus-Christ vient sur la terre pour réconcilier les hommes avec Dieu. Il vient, il meurt sur la croix, ressuscite d'entre les morts. Quelque temps plus tard, monte dans la gloire auprès du Père afin de donner son esprit à ceux qui vont croire en son nom. Et pendant que les disciples sont en train de prier, puis ils sont en train d'attendre, de recevoir ce que le Fils a promis d'envoyer, l'Esprit Saint, voici ce qu'on lit dans le livre des Actes. Et Dieu va donner un signe particulier, un signe de cette nouvelle unité que Dieu veut créer à travers l'Église. Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posant sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ils se sont mis à ce moment-là, de manière miraculeuse, à annoncer les gloires de Dieu, à annoncer l'Évangile aux gens qui étaient là, parce que c'était un moment de fête où il y avait des Juifs qui venaient de toutes sortes de places, de la diaspora, qui avaient leur langue propre, et donc qui entendaient les gloires de Dieu annoncées dans leur langue. Et donc, au moment où Christ établit son Église, où il établit son Église, il donne un signe aux nations, un signe à l'Église, de cette nouvelle unité que Dieu veut créer à travers l'Église de Jésus-Christ, à travers la puissance de l'Évangile. Et l'Église est appelée à devenir sur la terre cette saveur nouvelle où des gens de toutes les nations, de tout peuple, qui ont des cultures différentes, des codes différents, des goûts différents, des origines différentes, des langues différentes, peuvent se réunir ensemble en Jésus-Christ et donner cette saveur nouvelle au monde. Voyez-vous, c'est l'appel de l'Église de montrer que cette division que Dieu a semée parmi les hommes à Babel trouve sa réconciliation avec Dieu et entre les hommes dans l'Église de Christ. Ça a beaucoup d'implications sur le genre d'Église qu'on doit implanter. On va en parler un petit peu plus loin. Mais revenons à Éphèse, d'accord? Revenons à Éphèse. Éphésiens 2. Éphèse était une société divisée. C'était une société, d'abord c'est l'Empire romain, ça veut dire que l'esclavage a lieu, il y a les esclaves, il y a les hommes libres, il y a les hommes libres qui ne sont pas citoyens romains, donc il y a comme trois classes dans la société. T'as le citoyen, t'as l'homme libre qui n'a pas sa citoyenneté, puis t'as l'esclave. Fait que déjà, c'est assez pour créer de sérieuses divisions. Mais l'Empire romain était énorme pour l'époque, et donc avait couvert un large nombre de cultures, d'ethnies, les rassemblant ensemble. Et donc, il y a aussi des divisions qui sont là tout simplement sur l'origine de chacun. Une de ces divisions-là, les plus évidentes pour nous, c'est évidemment celle qu'il y avait entre les Juifs et les païens, les non-Juifs, tous les autres. Et il y avait des haines profondes qui étaient entretenues, d'accord? Donc, il y avait des divisions de classe sociale, il y avait des divisions d'origine ethnique, il y avait des divisions de statut dans la société, il y avait des divisions entre religions, il y avait des divisions entre les Juifs et les païens. C'est la réalité à Éphèse. Et lorsque Paul écrit sa lettre à l'église d'Éphèse, il veut leur parler de la puissance de l'Évangile, comment l'Évangile vient transformer une culture, une société, lorsque Christ vient établir une église dans une localité. Quelle différence est-ce que ça va faire dans cet endroit-là, dans cette ville-là? Et c'est de ça dont il est en train de parler ici dans Éphésiens 2. Il est en train de parler de cette réconciliation-là qui va se passer. Et je veux vous inviter cette semaine à juste à être attentif autour de vous. Ça serait facile pour nous de dire on vit dans une société moderne, québécoise, on est très inclusif, gna 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 gna. Oui, c'est vrai. Juste dans l'église ici, moi je dis que les jeunes se tiennent avec les jeunes, les vieux avec les vieux, les moyens avec les moyens. Même des fois, hein? Des fois même au niveau des cultures, on se mélange pas tant que ça. Je vous invite à réfléchir cette semaine au travail, autour de vous, dans la société autour de vous. Où est-ce que vous voyez ces espèces de séparations-là, ces divisions-là? Peut-être même dans vos familles, il y en a. Il y a une partie de la famille qui ne parle plus à l'autre partie de la famille, puis on est rendu avec des divisions. Je vous invite à porter attention à ça au travail. Est-ce qu'il y a des cliques comme ça? Est-ce qu'il y a des groupes comme ça où il n'y a pas cette réelle intégration-là? Puis je vous invite à réfléchir à ça dans l'Église aussi. Est-ce qu'il y a ça aussi dans notre Église? Maintenant, là où l'apôtre Paul commence dans Éphésiens 2, il commence en nous disant qu'il y a deux divisions dans l'humanité. Il y a une division qui est horizontale, c'est dans nos rapports les uns avec les autres, dans nos relations les uns avec les autres. Mais il y a une division beaucoup plus fondamentale, beaucoup plus importante, qui est verticale, celle-là, qui est entre Dieu et les hommes. Elle est beaucoup plus importante parce que Dieu est plus important que nous, parce que c'est la réconciliation la plus importante, mais elle est beaucoup plus importante aussi. Parce que c'est simplement en se réconciliant avec Dieu, nous dit l'apôtre Paul, qu'on va être réconcilié avec les hommes. Donc, je vous lis juste deux passages dans Éphésiens. Éphésiens 2, verset 17-18. « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts. » Intéressant, la paix à ceux qui étaient prêts, c'était les Juifs. Ils étaient prêts, ils avaient la connaissance. Pourtant, ils n'avaient pas la paix avec Dieu, parce que la paix avec Dieu allait se trouver en Jésus-Christ. Donc, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, vous les païens, vous les non-juifs, et la paix à ceux qui étaient prêts. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Éphésiens 2, 13. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, les païens, n'étaient pas prêts. » Parce qu'on n'avait pas la connaissance, la révélation. On n'était pas le peuple choisi. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Dieu est venu annoncer la paix aux hommes. Mais la première paix qu'il est venu annoncer, c'est la paix avec lui. La paix entre lui et les hommes. Et cette paix-là s'est trouvée en Jésus-Christ. Et si tu te trouves au cœur de division, de conflits, de conflits que tu n'arrives pas à résoudre, c'est Tim Keller, je me souviens plus exactement comment il formulait, mais j'aimais bien ça, il dit la réconciliation dans nos conflits ne se résout jamais premièrement dans la poursuite de l'autre. Elle se résout toujours dans la poursuite de Christ. Toujours. Tu as des conflits actuellement dans ta vie, tu n'arrives pas à les résoudre, c'est là. Oui, tu dois aller vers l'autre pour aller régler les conflits avec l'autre personne. Mais la résolution ne se trouvera pas si, premièrement, avant tout, tu n'es pas quelqu'un qui poursuit Jésus-Christ. Parce que c'est dans notre réconciliation avec Dieu qu'on trouve la puissance de l'Évangile qui nous amène après à pardonner comme on a été pardonné. Et donc, je dois chercher cette première réconciliation-là avec Dieu. Vernon Pierre dit « Nos relations horizontales brisées, les uns avec les autres, proviennent ultimement de notre relation verticale avec Dieu qui est brisée. La source de l'unité entre les hommes qu'on voit dans l'Église est premièrement notre paix avec Dieu. » Et donc, si tu fréquentes cette assemblée, tu es dans cette Église, mais pour toi, tu es en cheminement, tu es en train de chercher l'Évangile, tu es en train d'explorer, puis dans ta famille, il y a un paquet de conflits. Continue, tu es sur la bonne voie. Cherche Christ. Poursuis Jésus-Christ. Et lorsque, en Christ, tu vas trouver à te réconcilier avec Dieu, tu vas trouver une puissance dans l'Évangile, une puissance de réconciliation pour rétablir la communion avec les hommes. Parce qu'elle se trouve là dans l'Évangile de Jésus-Christ. Et ce que Dieu a fait avec ça, c'est qu'il a produit un seul corps, qui est l'Église. Éphésiens 2, 14 à 16. « Car il est notre paix, lui qui des deux, parlant des Juifs et des païens, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Par la puissance de l'Évangile qui rentre dans le cœur d'un individu, Dieu greffe cet individu-là au corps de Christ. Et c'est l'Évangile qui règne au milieu d'une Église. C'est l'Évangile qui règne au milieu d'une Église. Lorsqu'une Église apprend à respirer vraiment la grâce de l'Évangile, avec toute la sainteté que ça inclut, que l'Église est unie comme un seul corps. Et non seulement Christ forme l'Église, mais il nous dit qu'il forme une nouvelle humanité. Regardez versets 14 à 16. « Car il est notre paix, lui, qui des deux n'en a fait qu'un, mais un petit peu plus loin, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Un seul homme nouveau avec les deux, en établissant la paix et les réconcilier. » Lorsque je viens à Jésus-Christ, lorsque je place ma foi en Christ, les Écritures me disent que je suis créé en lui. Il a créé en lui un homme nouveau. Et donc, il y a une nouvelle identité qui m'est donnée. Je reçois littéralement une nouvelle identité quand je deviens chrétien. Vous savez, lorsqu'on veut définir notre identité, je pense particulièrement à l'adolescence, mais c'est vrai à travers toute la vie, d'accord? Mais ça, il y a comme un pic, disons, à l'adolescence, où tu veux définir ton identité, tu veux définir qui tu es. Puis on cherche à faire ça par comparaison. On cherche à définir qui on est en regardant l'autre. On regarde l'autre puis on dit « je suis meilleur ou je suis moins bon, je suis comme ça ou je suis pas comme ça, je lui ressemble ou je lui ressemble vraiment pas. » Puis on commence à regarder un peu partout autour de nous, puis progressivement on cherche à affirmer qui on est dans notre différence. Et si on est chanceux, bien on est capable de définir qui on est dans notre supériorité, parce qu'il y a plein de domaines où on dit ah, « je suis meilleur là-dedans, puis là t'as une image de toi, puis oh, t'es bien dans ta peau parce que je suis meilleur que quelqu'un d'autre. » Lorsqu'on vient à la connaissance de Christ, c'est comme si tout ça, hein, l'apôtre Paul, il dit tout ça, je regarde ça comme des rebuts, comme des déchets. Parce que mon identité ne se trouve plus dans ces choses-là. Lorsque je viens à l'Évangile, c'est comme si j'avais une transfusion spirituelle. Parce que Christ a fait couler en moi sa grâce. Et donc, il y a une espèce de sang spirituel qui coule dans les veines de tous les chrétiens. Parce que lorsque je viens à l'Évangile, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tout ce qui définissait ma valeur par comparaison avec les autres hommes, ça n'a aucune valeur intrinsèque dans la présence de Dieu. Lorsque je me retrouve devant Dieu, tu sais, que tu vales 40 milliards de dollars ou que tu aies 100 000 dollars de dette, ça ne change absolument rien devant Dieu, tu es un pécheur. Que tu sois un génie surdoué ou que tu sois totalement nul à l'école, ça change absolument rien. Écoutez, au départ, lorsque l'Église a commencé à se créer, à se fonder, ça a produit toutes sortes de tensions parce que vous aviez des esclaves qui devenaient des pasteurs dans l'Église pendant que le propriétaire de l'esclave était assis là dans le banc en train de recevoir ses enseignements. C'était ça l'Église. Toutes ces choses-là n'étaient plus des standards. Parce qu'on est une communauté de gens graciés. Une communauté de gens qui ont été graciés par Dieu. Et donc, ce que ça fait, c'est que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, si vous avez cru en Jésus-Christ, d'une manière spirituelle, on a le même sang qui coule dans nos veines. C'est le sang de la grâce qui a été versé à la croix, le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix. Et tout ce que je prenais dans le passé pour définir mon identité comme mes différences, là où je peux être supérieur à quelqu'un d'autre ou moins bon, ou plus de valeur, où je suis mieux établi, les choses vont bien dans ma vie ou ça va pas bien dans ma vie, toutes ces choses-là ne définissent pas ma valeur, mon identité devant Dieu et ne doivent pas définir ma valeur, mon identité dans l'Église de Jésus-Christ. Ce sont des standards pour définir la valeur de quelqu'un qui sont utilisés dans le monde. Mais ils n'ont pas lieu d'être dans l'Église. J'ai déjà donné cette illustration-là. Ces standards-là sont ridicules, sont insensés même pour le monde. C'est juste que, vous savez comment on est l'être humain, souvent on voit pas nos propres contradictions, puis tu as besoin que quelqu'un d'autre vienne te voir pour t'aider à voir tes contradictions. On va dire aux gens, j'ai déjà dit à quelques reprises l'année dernière, on va dire aux gens, écoute, faut que tu te réalises, tu peux réaliser tes rêves, tu tout ce que tu veux faire, tu peux l'atteindre, on va t'aider à accomplir ça. Puis lorsqu'on arrive devant quelqu'un qui est multi-handicapé des suites d'un accident de fou, puis qui est pris dans sa chaise, puis qui va, sa contribution sera pas très très visible, tu sais, ça va être... Mais là, on dit, tu sais, c'est pas ça qui définit la valeur d'un individu. C'est pas ça qui définit ta valeur, ce que tu peux faire. T'es une personne. Mais toute la société dit le contraire. Lorsqu'on arrive dans l'Église de Christ, on est une communauté de gens graciés. Tous des pécheurs. Tous des tout croches, de pas d'allure, de perdus, d'entêtés, têtes de cochon qui ne voulaient rien savoir de Dieu. Qui ont rencontré la personne de Christ par la puissance de Dieu. Qui ont été saisis par la grâce. Puis qui ont été doués. Dieu nous a donné une nouvelle identité en lui. Dieu a pris les deux et a créé en lui un seul homme, nous dit l'apôtre Paul. Une nouvelle humanité dans la personne de Jésus-Christ. Et cela a des implications pour l'Église. Une Église ne devrait pas être une Église d'une seule génération. Une Église ne devrait pas être une Église d'une seule ethnicité. Je comprends que des fois, on en fait des stratégies pour rejoindre des gens. Je comprends tout le raisonnement. Mais si l'Église n'est pas multigénérationnelle, multiethnique, multiculturelle, assez mêlée puis assez disparate pour que ça prenne juste la grâce de Dieu pour que ça tienne ensemble, cette affaire-là, elle n'est pas à la gloire de Dieu, je suis désolé. Parce qu'il y a quelque chose d'essentiel, de fondamental dans l'Évangile qui est perdu. Et donc, l'Évangile doit être multi. Génération, couleur, origine, goût, préférence. Plus ça va être compliqué de mettre ça ensemble, plus Dieu va être glorifié, parce que la grâce de l'Évangile est ce qui nous réunit ensemble. Le test d'une Église, dit Ray Hartland, d'une Église qui se dit centrée sur l'Évangile, et c'est ça qu'on veut être ici, se trouve dans sa doctrine sur papier, augmentée de sa culture en pratique. Et si on est centré sur l'Évangile, la culture de cette Église-ci va refléter cela profondément. Et ça devient un témoignage puissant pour la société. La semaine dernière, on a dit, Jésus-Christ dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. » Comment est-ce que l'Église peut apporter une saveur différente au monde? Quelle est cette saveur qu'on est appelé à apporter? Le projet de Dieu, depuis toujours, pour l'Église, c'est qu'un jour, les gens de toutes les nations, de tous les peuples se réunissent ensemble pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu. Et donc, lorsque le monde rencontre l'Église, il rencontre une unité qu'il ne trouve nulle part ailleurs dans la société. Les hommes peuvent se rassembler de toutes les couleurs, de toutes les nations, avec des projets communs, ils veulent bâtir quelque chose. Mais l'unité qu'on va trouver dans l'Église, c'est la puissance de l'Évangile qui va produire ça véritablement. On lit dans Actes 2, versets 46-47, « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Raymond Pierre dit encore, « L'unité qui existe entre des gens si diversifiés dans l'Église locale est l'un des témoignages les plus puissants de l'Évangile devant le monde. » Maintenant, on a une autre image pour vous ce matin, parce que des fois l'Église ressemble plutôt à ça. Si c'est un corps, ça ressemble plutôt à... Vous connaissez l'histoire de Frankenstein? Je ne sais pas si on... Oui, Frankenstein. C'est une vieille histoire, hein? Ça a été écrit au 19e siècle, cette affaire-là. Madame Shelley qui a écrit ça. Une église qui n'est pas centrée sur l'Évangile, c'est à ça que ça ressemble. Ça ressemble à une espèce de corps disparate. Tu vois bien que ça a été rabouté, cette affaire-là. Ça ne fonctionne pas parce que la grâce de l'Évangile n'est pas présente, manifeste et évidente dans les relations. Et donc, l'unité que Dieu veut créer dans l'Église et qu'il a créée à travers Jésus-Christ demande à être entretenue. Ça demande des soins constants. Ça demande de revenir constamment à la grâce de Jésus-Christ. On lit dans Colossiens 3, versets 13 à 15, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Poursuis Christ pour poursuivre la réconciliation. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Quelques questions pour vous cette semaine, pendant que je me prépare à vous laisser réfléchir à ça puis à prier là-dessus. Ça pose des questions à l'unité dans notre Église. Parfois, l'unité entre les chrétiens est superficielle. Peut-être vous dites, « Moi, j'ai jamais de conflit avec des chrétiens. » Si tu n'as jamais eu de conflit avec des chrétiens, c'est que tu ne côtoies pas beaucoup les chrétiens. Je te dis. Moi, je suis toujours en train de régler des conflits entre les personnes, puis des conflits entre moi puis d'autres personnes, parce que j'ai un cœur pareil comme tout le monde. Fait que une bonne partie de mon travail, c'est ça. Fait que l'Église, pour manifester la beauté de cette unité-là, demande que les relations ne soient pas superficielles dans l'Église. Et je crois que des fois, on hésite à vraiment se lancer dans des relations riches et profondes parce qu'on a peur, justement, que ça va générer des conflits. Mauvaise nouvelle pour toi, c'est sûr que ça va en générer des conflits. C'est certain, parce qu'on est une gang de pécheurs ici. Puis on n'est pas rendu, tu sais. Mais Dieu se sert de ça pour nous conduire à revenir constamment à l'Évangile. C'est ça que Paul fait dans son argument ici dans Colossiens. Il nous ramène à l'Évangile. Si quelqu'un a une raison de se plaindre, pardonnez-vous comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça me ramène à l'Évangile. Je n'arriverai pas à résoudre les conflits si je ne vais pas à l'Évangile. Et donc peut-être que le défi auquel Dieu t'appelle, c'est à arrêter d'être dans des relations superficielles avec cette Église. De te joindre un petit groupe de quartier, d'inviter quelqu'un à aller prendre un café, de tisser des liens qui sont en profondeur, d'embarquer dans du coaching, de t'engager, de servir, d'être près des gens. Il va y avoir des conflits, je te le dis, c'est certain. C'est sûr et certain. Mais Dieu va manifester sa gloire parce que tu vas être obligé d'aller puiser la grâce qu'il y a dans l'Évangile pour résoudre ces conflits-là. Souvent, des conflits non résolus vont s'installer dans l'Église. Et peut-être que c'est là que Dieu est en train de te parler ce matin. Parce qu'il y a des conflits qui perdurent depuis des mois, voire des années, et ils ne sont pas résolus, puis tu ne crois pas qu'ils peuvent se résoudre. Tu ne trouveras peut-être pas l'harmonie parfaite sur la terre, mais ces conflits-là peuvent se résoudre. Et peut-être que Dieu est en train de te dire ce matin que tu dois arrêter de fuir ça. Tu dois faire face, puis avoir foi en Dieu. Croire en Dieu pour aller résoudre ces conflits-là. Peut-être que le manque d'unité se manifeste dans nos foyers, dans nos maisons. Si nos foyers sont composés de chrétiens, l'Évangile doit venir faire la différence là aussi. Je sais que je parle de choses qui ne sont pas le fun pour plusieurs d'entre vous parce qu'il y a un manque d'unité. La puissance de l'Esprit n'est pas entièrement manifeste. La puissance de l'Évangile n'est pas entièrement manifeste. Écoutez, c'est dans ma vie à toutes les semaines, à moi. Hier, dans mon cœur, j'étais en conflit avec des gens qui n'étaient même pas devant moi. J'ai passé une partie de la journée à prier et à dire, « Seigneur, montre-moi le chemin parce que je suis en conflit et ils ne sont même pas là. » Comprenez? Ça fait partie de vivre à la lumière de l'Évangile. C'est ça la réalité. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire cette semaine? À aller vers des gens d'une autre génération dans l'Église que tu côtoies pas du tout? À aller vers des gens qui sont pas tout à fait intégrés dans l'Église puis les aider à s'intégrer? À te joindre à un petit groupe pour aller vers des relations plus profondes? À donner un coup de fil à quelqu'un pour dire, écoute, prie là-dessus s'il te plaît, faut qu'on résolve notre conflit ensemble. Faut qu'on résolve notre conflit. Peut-être que Dieu t'appelle à faire une différence au travail cette semaine. Mais voyez-vous, c'est la grâce de Jésus-Christ qui nous unit. On lit dans Éphésiens 2, 8 à 10, et j'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre en avant. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je ne sais pas c'est quoi les bonnes œuvres auxquelles Dieu t'appelle cette semaine. Mais l'Église existe seulement par la grâce de Dieu. Ce rassemblement de croyants que nous sommes n'existe que par la grâce de Dieu. Et l'Église est l'une des plus belles manifestations de la gloire de Dieu sur la terre. C'est un des témoignages les plus puissants pour l'Évangile. Fait que cette semaine, quelles sont les bonnes œuvres auxquelles Dieu t'appelle par la puissance de l'Évangile pour contribuer, chercher à avoir ce témoignage d'unité, premièrement dans l'Église, pour donner cette saveur tellement différente? Est-ce qu'il t'appelle à aller vers quelqu'un que tu ne connais pas? Est-ce qu'il t'appelle à aller vers une autre génération? Est-ce qu'il t'appelle à inviter des gens à manger chez toi? Est-ce qu'il t'appelle à aller voir un ami et dire, « Prie pour moi, s'il te plaît, je manque de courage. Faut que j'aille régler un conflit qui dure depuis trop longtemps. Quand je viens à l'église, je fais des zigzags. J'évite des regards. Je connais mon petit secteur et connais le sien. On se parle pas trop. On servirait jamais ensemble dans un ministère. » Je sais pas c'est quoi. Peut-être que c'est dans ta maison. Peut-être que Dieu t'appelle à jeûner, à prier, à chercher sa face. Mais Dieu a donné l'Église au monde. Dieu a donné l'Église au monde pour qu'il apporte une saveur nouvelle dans ce monde. Il y a un des endroits où on peut apporter une saveur totalement différente. C'est par l'unité de Jésus-Christ dans l'Église. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux t'adorer. Ce matin, on est réunis en Église pour t'adorer. Et on a parlé de la gloire, de la majesté de ton œuvre, Seigneur, sur la croix. Seigneur, tu nous as réconciliés. Tu appelles les hommes à se réconcilier avec toi en Jésus-Christ, en acceptant la grâce de l'Évangile, la grâce du pardon de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, je veux te prier pour toute personne ici ce matin qui ne serait pas réconciliée avec toi, qui vit les divisions dans sa vie, mais qui est déjà séparé de toi, Seigneur. Accorde-lui la grâce de s'humilier devant toi, de s'appuyer uniquement sur l'œuvre de Christ à la croix pour accepter le pardon et de recevoir cette identité nouvelle. Et Père, je veux te prier pour l'Église aussi. Je veux te prier, Seigneur, pour notre assemblée. Seigneur, je veux te confesser au nom de toute l'Église que parfois il y a des conflits qu'on tolère dans nos vies et que ça porte opprobre, ça porte ombre à la beauté de l'Évangile, Seigneur. Je veux te confesser ces conflits qu'on laisse perdurer, pour lesquels on a baissé les bras. Je veux te confesser, Seigneur, que trop souvent il y a de l'amertume dans nos cœurs qui s'installe. L'Évangile ne peut plus nous parler parce qu'on n'entend plus le message de la grâce. L'amertume s'est installée, Seigneur. Je veux te confesser, Seigneur, ces divisions, ces séparations que nous tolérons dans l'Église, parfois entre générations, entre cultures, alors qu'on reste avec notre clique, notre gang d'amis, sans avoir le souci d'aller vers l'autre qui est en train de s'intégrer dans l'Église. Celui là-bas à qui j'ai jamais parlé, que je connais pas, puis qui s'assoit à quelques bancs de moi tous les dimanches, mais à qui j'ose pas adresser la parole. J'ose pas l'inviter chez moi. Seigneur, ta gloire, Seigneur. Ta gloire est ton témoignage pour le Grand Longueuil, pour la Montérégie, pour nos familles, Seigneur. Ta gloire mérite que nous nous humilions en Église. et que tu apportes la réconciliation au milieu de cette assemblée, dans nos foyers, Seigneur, dans nos familles, dans nos petits groupes, dans nos ministères, dans nos relations les uns avec les autres, Seigneur. Seigneur, donne-nous le courage cette semaine d'entrer dans ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions, que nous nous humilions, que nous fassions cet appel, cette rencontre, Seigneur, tant attendue. Que nous nous humilions pour demander pardon sans attendre l'humiliation de la personne devant nous, simplement par humilité, Seigneur. Parce que ta gloire est plus importante que mon statut, mon standing. Seigneur Jésus, merci pour la grâce, merci pour l'Évangile, merci pour cette puissance qui nous a réconciliés avec toi, Seigneur. Nous voulons élever ton nom parce que nous croyons en toi. Seigneur, tu n'as pas abandonné cette Église. Toutes les générations qui la composent en est un témoignage merveilleux. Toutes les ethnies qui la composent en est un super beau témoignage, Seigneur. Et chaque semaine, tu réconcilies des frères et des sœurs ensemble. Viens manifester ta gloire. Viens changer de manière profonde notre culture d'Église, Seigneur, afin que nous apportions cette saveur nouvelle au monde qui nous entoure. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.